Bonjour et bienvenue dans Back Channel, le podcast consacré aux coulisses de la politique internationale. Phoenix, vous êtes romancier, spécialiste du renseignement, et vous commentez l'actualité stratégique sur l'Ukraine, la Russie, le Proche-Orient et l'Asie. Pour ce 24e épisode, je voudrais parler de la situation en France, et ce, dans un contexte international.
Bonjour Laura.
Bonjour Phoenix. On parle beaucoup des problèmes financiers et sociaux de la France, de l'instabilité gouvernementale. Déclenchée par la dissolution du président Macron en juin 2024, elle n'en finit pas d'entretenir un climat d'incertitude. Au même moment, on évoque l'urgence du réarmement après 30 ans de politique d'atrophie budgétaire de la défense et de réindustrialisation. Tout ceci intervient alors que la dette publique atteint des sommets. Et depuis la crise Covid, qui précède la guerre en Ukraine de 2 ans, on parle à nouveau de souveraineté, qu'elle soit alimentaire, énergétique, militaire, technologique. Est-ce que tout cela est possible ou est-ce une quadrature du cercle ?
Le problème n'est pas la dette ou les usines qui ferment. Il y a 30 ans ou 20 ans, quand une usine fermait, on disait c'est parce que les ouvriers qui fabriquent les produits importés sont maltraités et mal payés. Donc, une usine fermait, les ouvriers perdaient leurs emplois, mais la morale était sauve. Maintenant, quand les usines ferment, on dit que c'est parce que les produits chinois importés ne sont pas soumis aux régulations et aux standards nécessaires. En fait, les produits que nous produisons sont chers à cause de la ponction de l'État. La France est maintenant recordman du monde de la pression fiscale, et pourtant, elle accuse un déficit budgétaire de 5,8% en 2024. Il sera probablement supérieur à 5% en 2025. La France est recordman du monde du nombre de fonctionnaires et du pourcentage d'employés dans la fonction publique, et ça fait 40 ans que l'on sait que l'État a une feuille de salaire beaucoup trop élevée. Et évidemment, quand on a une feuille de salaire beaucoup trop élevée et qu'on est l'État, ça limite énormément la flexibilité budgétaire, c'est-à-dire la capacité de diminuer certains postes afin de réallouer sur d'autres postes. Et qu'est-ce qu'on fait ? Depuis 2000, on a en fait 1 million de fonctionnaires en plus. Quant à la part de l'État dans la richesse nationale, elle reste évidemment au top avec plus de 8% d'augmentation en 25 ans, donc depuis l'an 2000, à environ 56% maintenant. Ce qui, encore une fois, et le pays où la part de l'État dans le PNB est la plus élevée. Quand je faisais mes études d'économie, ça fait un moment, je ne vais pas vous dire quand, c'était à 44%. Et déjà à l'époque, on se disait que 44% c'était insoutenable.
Et vous parlez aussi d'abandon de la souveraineté, c'est-à-dire d'une France de moins en moins capable d'assurer son destin.
C'est assez clair. Prenons, pour commencer, le budget de la défense. Depuis le début du conflit ukrainien, tout le monde s'accorde à dire qu'il faut augmenter le budget de la défense. Depuis 3 ans, on a entendu je ne sais plus combien de déclarations, et finalement, on a en fait très peu de faits concrets. Le volant de manœuvre s'est réduit comme peau de chagrin. On a un budget à 59 milliards d'euros par an, à peu près, avec la nouvelle loi de programmation militaire, c'est-à-dire 6 fois moins que les dépenses de retraite annuelles. Or, il faudrait, selon toutes les estimations, atteindre à peu près 100 milliards par an le plus vite possible, afin de rattraper tranquillement le retard accumulé depuis 30 ans. Or, on a une production d'artillerie anémique, on a la moitié du parc de chars qui est déjà pas bien grand, ou celui d'hélicoptères qui est pas grand non plus, qui ne peut pas opérer faute de pièces détachées. La guerre est en train de vivre une transformation sans précédent, ce qu'on appelle la révolution des drones, des sensors, etc. Et là aussi, on a une production ridicule. 700 drones alors que les Ukrainiens en utilisent 14 000 par mois. La guerre en Ukraine fait rage, mais on achète toujours beaucoup de gaz aux Russes. En 2013, l'armée française intervient pour sauver le régime au Mali. On engage des troupes au Sahel pendant 10 ans afin de protéger les populations locales contre le spectre du terrorisme islamiste. Et en 2 ans, on se fait virer d'à peu près tous les pays africains par une bande de mercenaires.
Vous parlez de Wagner et de Yevgeny Prigogine.
Oui, ensuite, on a les services de renseignement. On a doublé leurs moyens depuis 10 ans et regardez la liste des échecs récents. L'incapacité à prévoir le conflit en Ukraine. Ça a même coûté son poste au patron de la DRM, de la Direction du renseignement militaire à l'époque, et puis peu de temps après, enfin un an après, à celle du patron de la DGSE, Bernard Aimier. On a les actions des Russes en Afrique, on vient d'en parler. On a le conflit Inde-Pakistan, absolument pas prévu par les services de renseignement. On a le coup de Locus, Hein, donc, c'est-à-dire quand les Australiens se sont mis à aller voir en douce les Américains et les Britanniques, de façon à souffler le contrat du siècle des sous-marins nucléaires australiens à Naval Group, qui travaillait dessus depuis des années avec ses contreparties en Australie. On a évidemment l'abandon des agriculteurs, l'abandon des standards éducatifs, l'incapacité à faire exécuter les OQTF, l'incapacité à offrir les conditions pour préparer le pays à la révolution de l'intelligence artificielle. Maintenant, même des voleurs du dimanche peuvent voler les bijoux de la couronne à l'intérieur du Louvre et en ressortir sans inquiétude.
Je voudrais revenir sur votre théorie qui visiblement ne fait pas l'unanimité. Elle va même contre l'un des rares consensus en France, la toute-puissance de l'État. Pourriez-vous nous la résumer ?
Je dis juste que le retour de la souveraineté et de l'indépendance nationale passe par la transformation du modèle socio-économique qui prévaut depuis la Libération. En gros, pas de souveraineté possible avec un État obèse. Ne blâmons pas Trump, les Russes, les Chinois, Bruxelles, les riches, ceux qui font de l'optimisation fiscale, ou encore les économistes, pour la perte progressive de notre souveraineté et de notre indépendance. Blâmons plutôt notre obsession à vouloir préserver un modèle obsolète.
Expliquez-vous.
Si le modèle social ne change pas, on va vers un endettement tel qu'il conduirait dans un premier temps à une baisse significative de la note des agences de notation et à des paiements d'intérêts si élevés que le gouvernement serait à la fois forcé de baisser les dépenses régaliennes, d'où un problème de sécurité nationale, les dépenses sociales, d'où un problème de paix civile. Et évidemment, ce même gouvernement se ferait remonter les bretelles par Bruxelles. À terme, c'est la mise sous tutelle. On n'y est pas encore, je suis d'accord, mais tout ça, ça n'est encore que le début. Quid de l'indépendance militaire ? Quid des promesses d'atteindre 3,5% du PNB pour le budget de la défense ? Qu'en est-il de l'indépendance énergétique ? Où sont les investissements dans le nucléaire ? Qu'en est-il de l'indépendance alimentaire, qui faisait la force du pays au sein de l'Union européenne ? L'indépendance en matières premières, notamment le défi stratégique des terres rares, qui est un gros enjeu en ce moment entre les Chinois et les Américains. Où sont les Français ? Où sont les Européens ? L'indépendance technologique, qui est fondée sur l'excellence d'un système éducatif et universitaire, qui justement ne l'est plus excellent. En fait, la folie budgétaire et fiscale des soi-disant élites de ce pays met en péril les fondements de la nation. Tout peut tomber comme des dominos les uns après les autres.
Vous pensez quoi des débats budgétaires au Parlement ?
C'est un peu le jour des fous, comme au Moyen-Âge. On dit n'importe quoi et tout le monde rigole, sauf, naturellement, Standard & Poor's, Fitch ou Moody's, qui eux ne rigolent pas.
Que voulez-vous dire ?
Prenez Olivier Blanchard, c'est l'ancien chef économiste du FMI, et il parle de la taxe sur la fortune improductive comme un impôt d'une stupidité peu commune. Ce sont quand même des propos assez peu modérés pour un haut fonctionnaire. Et cette taxe d'une stupidité peu commune, c'est en fait la version light, si je puis dire, de la taxe Zucman, un économiste qui plaît à beaucoup de monde, il est médiatique, etc. Mais en fait, il ne connaît rien à l'économie moderne.
Vous y allez un peu fort.
Non, pas vraiment. Les théories post-marxistes étaient parfaitement adaptées au XIXe siècle, quand la possession des moyens de production structurait la relation ouvrier-patron. Maintenant, le vrai capital, c'est l'existence d'un écosystème propice ou non à l'innovation et à l'entrepreneuriat, c'est-à-dire le cadre juridique, d'entreprises de pointe, le cadre fiscal évidemment, l'ouverture au monde, la culture de start-up, le cadre universitaire. Aucune économie ne tiendra la route sans un tissu qui favorise le développement des entreprises innovantes. Et comme nous sommes dans une nouvelle révolution industrielle, propulsée par le logiciel, le réseau, l'Internet et maintenant l'intelligence artificielle, c'est la constitution de pôles d'entrepreneuriat ou non qui déterminera l'élan et le dynamisme d'une économie moderne.
Et les débats entre députés, vous les avez regardés ?
Non, j'ai assez de problèmes, mais Philippe Axion, le prix Nobel d'économie, lui l'a fait. Et son verdict n'est pas terrible non plus. Il s'est dit atterré par le niveau intellectuel et économique de certains députés qui ne comprennent rien à l'économie, ne s'informent pas, ne lisent pas. Il a raison. Au passage, c'est un énorme problème de démocratie. Le politique est accaparé par des professionnels des médias qui savent une chose, parler, envoyer des tweets sur les réseaux sociaux et se faire élire grâce à l'organisation de leur parti. Mais en fait, une fois élus, ils exercent un pouvoir démesuré sur des sujets économiques auxquels ils ne comprennent rien. Le résultat, c'est la dette qui pèsera sur les prochains siècles, la fin de la paix civile, ou, dans le moins pire des scénarios, la mise sous tutelle par le FMI.
Vous dressez un scénario très noir.
Ce qui provoque les révolutions, ce sont les problèmes financiers. La Révolution française est avant tout un problème de dette accumulée. L'Ancien Régime avait accumulé tellement de dettes, principalement des dettes de guerre, que le roi a décidé, le roi Louis XVI, sous la pression de son ministre des Finances, de convoquer les États généraux en mai 1789, donc 2 mois avant la Révolution, afin de trouver des solutions à la dette, justement. L'Assemblée des Trois Ordres, à l'époque, le clergé, la noblesse et le tiers-État, ne parvenant pas à se mettre d'accord, eh ben, on connaît la suite. Ça vous évoque rien ?
La situation actuelle.
Aujourd'hui, on a un président roi élu, incapable d'exercer son pouvoir, avant tout pour des raisons financières et de mauvaise gestion budgétaire. Résultat, on a le pays avec la fiscalité la plus lourde du monde, la part de l'État dans l'économie la plus importante du monde. L'économie étouffe petit à petit. Les salariés sont en moyenne moins payés que dans des pays à richesse équivalente. Mais, en revanche, ces salariés français, ils sont bien plus imposés. L'État ponctionne bien davantage de la richesse. Mais comme la redistribution par le principal acteur économique est loin d'être optimale, on a un État qui, par son incurie, contribue à l'appauvrissement progressif et généralisé du pays. On vient de le voir encore ce matin, l'Allemagne vient d'annoncer des investissements énormes dans le spatial, historiquement un sujet de fierté et d'excellence pour la France, mais le problème, c'est que le pays, la France, sait déjà qu'il ne peut pas suivre. Il est, comme on dit, à court d'argent.
Et pourquoi ?
D'abord, dire qu'il est à court d'argent, ça ne veut rien dire. Parce que l'argent, depuis Mitterrand, c'est lui qui a commencé à endetter le pays de façon significative, on l'emprunte. Le problème, c'est qu'un jour, les prêteurs ne veulent plus prêter. Et dans ce cas, la dette explose. Quand elle explose, le déficit augmente. Plus la dette augmente, plus les intérêts augmentent. Plus il faut trouver encore davantage de fonds afin de payer les postes de dépenses quasi inamovibles. Et plus le déficit augmente, plus les impôts augmentent, plus l'économie étouffe. Et dans ce cas-là, il faut emprunter encore plus. On finit finalement par emprunter les intérêts qu'on doit payer, ce qui est exactement ce qui se passait dans la crise de la dette dans le tiers-monde dans les années 80 et 90.